Radio Foot International, Annie Gasnier.
Merci d'être fidèle au rendez-vous de Radio Foot International sur RFI et pour clôturer cette deuxième partie de soirée pour ce qui était de la Ligue des Champions à travers l'Europe. Et nous commencerons par Lyon, un cœur de Lyon. C'est ce qu'on a vu ce soir lors de cette victoire. L'Olympique Lyonnais a remporté sa première victoire européenne de la saison 2-0 en Allemagne face au RB Leipzig. Des Lyonnais vaillants, accrocheurs et récompensés. Une belle opération pour les Gaunes, peut-être un nouveau départ. On imagine en tout cas le soulagement du duo brésilien Juninho-Silvinho. La déception à Lille où les Dogs ont cédé, battus par les Blues de Chelsea par 2-1. Très beau but d'ailleurs de la victoire du Brésilien Willian, même s'il y a une erreur, nous semble-t-il, juste avant ce but. On va en parler. En tout cas, les Lillois ont manqué de nombreuses occasions et ils peuvent s'en vouloir. La victoire, oui, la victoire du Barça sur l'Inter Milan grâce à un doublé de Luis Suarez. Mais les Blaugrana se sont fait peur et cette équipe emmenée par son Messi était plutôt inquiétante en première mi-temps. Nous évoquerons aussi la victoire de Liverpool, la victoire de l'Ajax et puis demain la Ligue Europa avec deux clubs français en piste, les Verts de Saint-Etienne qui recevront Wolfsburg et puis le Stade Rennais qui jouera à Rome contre la Lazio. Voilà tout ce qui se passe dans l'Europe du football au menu de cette émission avec Gilles Verdez. Bonjour Gilles.
Bonsoir.
Merci. Merci de veiller avec nous. Oui, bonsoir évidemment.
Avec plaisir.
À cette heure tardive à Paris aussi. Et puis David Lortolari qui nous accompagne. Bonsoir David.
Bonsoir Annie, bonsoir Gilles, bonsoir à tous.
Nos envoyés spéciaux aussi qui sont sur le terrain et qu'on va rejoindre d'ici quelques instants. Radio Foot, c'est parti.
Ah, pour l'instant, ce sont que les Lyonnais qui sont à l'offensive avec la première occasion sérieuse et le but et l'ouverture du score en direct. Le but signé Memphis Depay à la 11e minute de jeu qui a été partiellement servi dans la surface de réparation et qui n'a plus qu'à ajuster Peter Gulacsi, le gardien hongrois, 1-0.
Et la passe de Martin Terrier qui déborde, c'est le but et le but pour Lyonnais, pour les Lyonnais, 2-0, 65e minute de jeu et qui a profité d'une erreur défensive, 2-0 dans cette Red Bull Arena après 65 minutes de jeu.
Ouf, on dit ressentir les Lyonnais aujourd'hui du côté de Leipzig. Peut-être l'heure de la rédemption, en tout cas une très belle opération pour cette équipe de Lyon. Et on rejoint tout de suite notre envoyé spécial, Christophe Diremzian, le Lyonnais, mais le Lyonnais qui est peut-être lui aussi un petit peu soulagé. Bonsoir Christophe.
Bonsoir Annie, bonsoir à tous.
Alors Christophe, qu'est-ce qu'on peut dire de ce match? On a vu des Lyonnais, un coup de baguette magique, transformé quand même. On les avait pas vus comme ça, on se souvient évidemment il y a 15 jours face au Zénith Saint-Pétersbourg à domicile, mais même quand ils ont joué le Paris Saint-Germain qui était aussi un match de bel enjeu. Et là on a l'impression de trouver, peut-être de retrouver une équipe lyonnaise.
Oui, je serais tenté de résumer ce match en trois mots: sérieux, application et réalisme. Sérieux dans cette défense que Silvinho avait décidé de reconduire selon ce fameux format face au Paris Saint-Germain, le 3-5-2. Ils ont été sérieux dans cette rigueur défensive qu'il fallait absolument avoir, notamment face à Timo Werner, l'Allemand, qui a été très très maladroit ce soir. Et on peut dire qu'il a très largement desservi son équipe par ses actions ratées. L'application aussi, pas tellement dans l'aspect offensif. Encore une fois, ils ont été particulièrement sérieux lorsqu'il a fallu serrer les rangs, notamment en seconde période, où ça a été quand même particulièrement compliqué lorsque les joueurs du Red Bull ont tenté quand même de revenir au score. Et puis réalisme, parce que très honnêtement, le but de Terrier, la 65e, était quand même un but marqué un peu contre le cours du jeu, il faut être honnête.
C'est un moment, oui, des énormes erreurs de défense,
vraiment une erreur de défense en plus de la part des joueurs du Red Bull. Il y en a eu deux, hein. La première, Upamecano, qui a quand même aussi été à l'origine de l'action qui a mené au but de Paille. Et puis derrière, Mukiele, bon, qui a été absolument pas vigilant sur le ballon qui a permis à Terrier de faire le break. Moi, je dirais que, bon, effectivement, elle a eu l'application nécessaire sur ce match pour l'emporter de fort belle manière. Les choix de Silvinho sont quand même à souligner ce soir. Martin Terrier, à la pointe de l'attaque, c'était pas forcément évident. Il a quand même laissé Moussa Dembélé sur le banc au départ. C'est un joli coup de la part de Silvinho qu'on attendait effectivement à la réaction après toutes les critiques qui se sont logiquement battues sur lui, sur la pauvreté de son jeu jusqu'à présent. Il a répondu en tout cas d'une certaine façon. Les joueurs aussi ont eu le ressort nécessaire pour avoir regagné un peu cette confiance qui va évidemment leur servir pour un autre match très très important à leurs yeux. Ce sera dimanche le derby contre Saint-Etienne. Mais bon, c'est quand même globalement une belle prestation, mais il faut quand même être assez honnête. Si Leipzig avec ses attaquants n'avait pas été aussi maladroit, ça aurait peut-être pas été tout à fait la même chanson.
Oui, mais ça sera peut-être l'heure aussi de sonner un peu le moment de la rédemption du côté de Lyon qui s'enfonçait à chaque fois au moins dans la déprime ou dans le doute. En tout cas, on a vu aussi la joie, hein. Christophe, vous avez dû la voir autant que nous. Évidemment, nous on avait des caméras avec des gros plans, mais Silvinho sautant dans les bras de Grégory Coupé. On a vu aussi nous en gros plan Jean-Michel Aulas très soulagé.
Ah oui, effectivement, ça, la joie de Silvinho sur le but de Terrier notamment était quand même assez significative. On en sentait l'énorme pression qui était sur l'épaule du Brésilien, la tension qui était quand même assez palpable ces derniers jours. Et on voit que c'est peut-être le match. Alors on va pas parler de match référence, c'est galvaudé, c'est cliché, mais c'est quand même le match qui a permis ce soir aux Lyonnais de voir peut-être ce que Silvinho voulait faire depuis un petit moment, mais que les Lyonnais n'arrivaient pas à mettre concrètement en musique sur le terrain. Tout n'est pas parfait, loin s'en faut, bien évidemment, il y a encore largement des choses à voir, mais on sent peut-être que là, ce soir, un groupe, une envie est vraiment née et il permettra peut-être dans les prochains jours de remonter un petit peu plus sur la durée, notamment en Ligue 1.
Merci beaucoup Christophe, on vous laisse aller guetter les joueurs qui vont sortir des vestiaires. Merci beaucoup d'avoir été en direct dans Radio Foot comme vous l'avez été tout au long de la soirée sur RFI. Et à très bientôt Christophe, merci.
À très bientôt.
Gilles, revenons sur la prestation, il parlait de sérieux, d'application, de réalisme. Vous êtes d'accord aussi, c'est vrai qu'ils ont réussi à tirer profit de ce qui se présentait à eux, ces Lyonnais.
Oui, ils ont voulu éviter la crise et pour moi, il y a vraiment un tempérament dans cette victoire, un état d'esprit collectif. On se demandait où était le collectif. Et j'ai eu l'impression d'une première communion, alors il y avait eu les premiers matchs un peu trompeurs, d'une première communion entre l'entraîneur et son groupe. L'attitude de Silvinho sur le banc, mais c'est pas le même. C'est pas le même qu'hier, Christophe le disait, c'est pas le même que les matchs précédents. Il était impliqué, il était transcendé, il communiquait sa hargne, on attendait ça de lui. C'est son équipe, il a même pris un avertissement, son homologue lui a été expulsé. J'ai trouvé que Silvinho avait réussi effectivement à transcender son effectif. Pour moi, c'est la victoire de l'état d'esprit.
Et à la belle heure en plus, on peut se dire David Lortolari, parce que c'est la scène européenne, parce qu'on sait que cette Ligue des Champions quand même, ces clubs se battent tous les ans pour essayer de la disputer, surtout en France où on n'a pas les quatre équipes automatiquement qualifiées, les quatre premières du championnat bien sûr. Donc là, on a l'impression quand même que Lyon, comme l'an passé dès le coup de Manchester City, mais Lyon va peut-être en faire quelque chose de cette qualification.
Je suis d'accord avec ça, avec le constat de Gilles aussi. On pouvait le deviner, c'est peut-être un peu fort, mais imaginez que Lyon au moins hausse son niveau sur cette compétition par rapport à ce qu'on a vu précédemment cette saison. Quand même, je veux me méfier moi de l'excès dans les deux sens.
C'est ce qu'a dit d'ailleurs un des joueurs qu'on écoutera d'ici peu.
On a fait de Lyon une équipe catastrophique assez vite et on va pas faire de Lyon ce soir. Et je vais vous glisser un petit chiffre dans la foulée. On va pas faire de Lyon ce soir sur un match où il a mis les bons ingrédients. On va pas faire de Lyon ce soir le vainqueur futur de la compétition.
Le RB Leipzig. On n'est pas allé jusque-là,
non,
hein, Gilles.
Non, mais ça ne me semblait pas.
Vous ne lisez non, pas dans nos pensées.
Simple, c'était pour aller au plus simple. Non, juste un petit élément de contexte. Et je ne veux pas, encore une fois, diminuer la performance de Lyon ce soir, puisque les ingrédients, on les a vus, ils étaient là. Simplement, le RB Leipzig, cette saison, a gagné 5 matchs sur 5 à l'extérieur. On a gagné 1 sur 5 à la maison. C'est une équipe qui est encore en, avec la fougue de sa jeunesse, qui a encore beaucoup de choses à apprendre. Cet entraîneur brillant a été mis en échec ce soir. Il a essayé de corriger à la mi-temps sa tactique. Ça n'a pas beaucoup mieux fonctionné. Il y a eu des problèmes de réalisme. Mm-hmm. Je pense qu'on va forcément en dire un mot aussi. Et Christophe Diremzian insistait sur Timo Werner. Forcément, ce soir, il a raison. Mais simplement, voilà, il y a aussi quelques éléments de contexte et il faut se méfier de la qualité de l'adversaire. Le RB Leipzig est encore dans ses réflexes des saisons passées. C'est-à-dire qu'il est plus performant lorsqu'il faut réagir que lorsqu'il faut agir.
En tout cas, les Lyonnais sont heureux, ils l'ont dit en sortant du terrain et on va entendre eh bien l'un d'entre eux, à savoir Léo Dubois, interrogé par nos confrères de RMC Sport où vous travaillez, n'est-ce pas, David Lortolari,
quand vous certains soirs.
Certains soirs, en tout cas pas ce soir, vous êtes avec nous, on a de la chance et on va écouter Léo Dubois.
Je suis heureux parce que on le mérite, je pense, on essaie de travailler tous les jours et malheureusement on a vécu une phase difficile qui n'est pas finie, mais voilà, on fait tout pour enrayer cette phase-là et là on a gagné, donc c'est bien. J'espère que c'est le début d'une nouvelle aventure et qu'on va continuer comme ça. Maintenant, l'enflammade, je veux pas en entendre parler parce que voilà, c'est qu'un match. Il faut qu'on affiche cet état d'esprit en continu parce que c'est ça qui va nous emmener à gagner des matchs, à être régulier et aujourd'hui, jusqu'à maintenant, ça n'a pas été le cas. Donc voilà, à nous de changer les choses, garder cet état d'esprit pour faire un gros match et un match plein contre Saint-Etienne.
Pas d'enflammade, nous demande Léo Dubois. C'est vrai que Gilles, on ne rentre pas là-dedans, mais on a quand même vu une autre équipe ce soir que celle des 5-6 derniers matchs auxquels on assistait.
Pas d'enflammade, mais pas de sinistrose non plus, parce que quand même, ils ont gagné. Ça les remet totalement en lice pour la qualification, quel objectif
ça,
essentiel.
C'est un fait, oui, bien sûr.
Et moi, ce que j'ai aimé, c'est que là, sur ce match-là, par rapport au précédent, vous avez raison Annie, des leaders ont émergé, notamment des leaders techniques. Aouar, pour moi, a fait un très grand match.
Enfin,
mais là,
parce
sur
qu'il
ce
avait
match,
du mal.
Exactement. Mmh. Créativité, implication permanente, constance, transmission de balles très importante vers l'avant. Donc,
toujours.
Il a propulsé Lyon. Mmh. Depaille, il marque. Il marque à chaque fois dans les matchs importants. C'est un joueur de grand match. Alors oui, il est parfois ou dilettante ou irrégulier, mais c'est un joueur de grand match. Et puis, défensivement, le sauvetage de Marcelo à un moment essentiel. Donc je trouve que dans des gestes...
C'était une défense qui n'avait pas son titulaire capitaine,
absolument,
qui était Denayer.
Absolument. Mmh. Alors certes, Leipzig, je suis entièrement d'accord avec David, a été extrêmement malheureux, mais Lyon quand même a fait un match très cohérent.
Ces buts donc viennent de effectivement d'erreurs défensives hein, de cette équipe à des degrés divers, mais en tout cas viennent d'erreurs. Mais ce qu'on peut dire aussi quand même, et on le constate sur d'autres matchs dans ces soirées de Ligue des Champions, David Lortolari, c'est que des fois ces face à face avec les gardiens se terminent pas toujours très bien.
Oui,
on verra ça du côté de Lille d'ici peu avec Hugo Moissonnier.
Ce poste évolue beaucoup. Les gardiens sont très
aussi.
Oui, ils sont très souvent non seulement grands, mais c'est un peu comme quand on parle de vitesse de sprint et de vitesse de sprint à haute intensité. Enfin bon, les gardiens n'ont pas forcément besoin d'être grands pour être bons. Mais en l'occurrence aujourd'hui, avec l'envergure de ces derniers, avec oui, aussi, quand on a un Timo Werner à qui il faut 6 occasions pour marquer un but. Et ça, c'est une réalité.
Lui, mais il a perdu son face à face.
Zéro, d'ailleurs.
Ce soir, zéro.
Non, mais c'est Anthony Lopez qui le gagne, finalement, cet énorme face à face. En sortant, il est pas forcément très bien placé, mais en tout cas, il lui fait rater son but.
Des internautes m'ont demandé à la fin du match via Twitter si c'était un problème de pression ou de psychologie dans la tête de Werner. Mais je crois pas, parce que justement, le fait d'être resté au RB Leipzig, pour lui, c'était une solution entre guillemets de confort, donc il est dans cette équipe bien installée, il a un attaquant puissant à côté de lui qui est le Danois Poulsen, et ce soir il aurait dû faire mieux, évidemment. Pour ce qui est des gardiens, pour terminer Gilles là-dessus, ça vient quand même de deux erreurs des deux défenseurs centraux qui sont flagrantes, et pour suivre le RB toutes les semaines, ces deux-là sont talentueux et ne font pas habituellement ce genre d'erreur. On s'est demandé devant le poste si c'était compréhensible et explicable, et moi j'ai pas d'explication.
On avait l'impression d'un manque de complémentarité de la charnière centrale de Leipzig. Manque de communication, ce qui est bizarre parce qu'ils parlent la même langue, donc c'est vraiment étonnant.
C'est le français, hein, en l'occurrence.
Alors là, j'ai vraiment l'impression que c'est une question de pression. C'est-à-dire qu'encore un état d'esprit un peu juvénile pour affronter cette Ligue des Champions. Et Lyon a très bien su saisir ça, parce qu'il faut revenir encore une fois sur la performance de Lyon. C'est le soulagement, parce que c'était la crise en cas de défaite. Attention, hein. D'où les gestes, vous les soulignez, Annie, extrêmement forts de Juninho, du président Aulas, de Silvinho avec Coupé. On a senti une communion, une révolte qui est venue de tout le groupe. Donc ça, c'est très important pour la suite. Soulagement, parce que sinon, c'était la tourmente. C'était le derby qui s'annonçait sur fond de crise. Et là, c'est plusieurs semaines de répit.
D'oxygène.
Donc c'est très important. C'est vraiment un match qui fera date dans la saison lyonnaise.
Et c'est très important finalement pour le football français aussi, parce que Lyon, on connaît cette équipe. L'année dernière, elle avait réussi à accrocher cette place européenne, mais l'année dernière, elle avait quand même fait une belle campagne. Et donc, on n'en a pas tant non plus des clubs qui ont cette expérience et qui se retrouvent dans cette position.
L'année dernière, ils avaient affronté d'ailleurs ce même Julian Nagelsmann, puisqu'ils avaient joué deux fois à Hoffenheim. Il y avait eu deux fois match nul. C'est Lyon qui avait été peut-être un peu malheureux sur ces matchs-là. Et ce soir, c'était un Lyon européen. Je crois que c'est la bonne formule.
C'est en tout cas la bonne nouvelle et la bonne opération pour l'équipe de Lyon. Donc, on vous le rappelle, ce soir, victoire 2-0, but de Memphis Depay et but de Martin Terrier.
Hein.
On va prendre une direction autre, puisqu'on va aller vers l'autre club français. Il s'agit évidemment de Lille.
Abraham, le petit jeune qui occupe la pointe de l'attaque de Chelsea, bien servi dans la surface de réparation, il se retourne et il ajuste Mike Maignan. Les Lillois un peu sonnés par cette ouverture du score. Happy birthday pour lui, parce que je ne suis pas le seul à fêter mon anniversaire. Abraham aussi, il fête son 22e anniversaire de la meilleure des manières avec un but, 22 minutes de jeu. Chelsea mène 1-0 ici au stade Pierre-Mauroy de Lille. On tente une combinaison. Osimhen, l'égalisation! Victor Osimhen au point de pénalty de la tête. Il trompe Kepa qui ne peut rien faire. Victor Osimhen, la nouvelle star du LOS qui remet les deux équipes à égalité un partout.
Hugo Massonnier,
le deuxième but de Chelsea, la volée de Willian qui rebondit et qui vient tromper Mike Maignan, resté immobile, qui n'a pas bougé. 2-1 pour Chelsea.
Et l'on part tout de suite du côté de Lille, le stade Pierre-Mauroy, où se trouve encore, peut-être tout seul en tribune, j'espère que vous n'ont pas coupé la lumière, Hugo Moissonnier, bonsoir.
Mais je suis presque tout seul, effectivement, il y a quelques jardiniers qui s'affairent, et des personnes qui démontent le matériel mis à disposition des journalistes.
Même le décrassage est terminé.
Je me sens très seul, non, il y a quelques confrères qui sont là, qui bouclent leurs articles.
Alors, Hugo Moissonnier, cette défaite de Lille, elle est venue en fin de match, hein, puisque le but est venu tard, celui de Willian, le blues. Mais surtout, parlons de cette prestation de l'équipe de Lille, parce qu'on l'avait déjà vu alors perdre en jouant du côté d'Amsterdam. Là, on savait que le mot d'ordre de Galtier, c'était jouer. Ils ont joué, mais ils ont encore quand même manqué de réalisme.
Ils ont manqué de réalisme, mais c'est toujours la même histoire. Ils ont manqué à la fois de réalisme offensif et de réalisme défensif. Le but de Tommy Abraham, je vais le prononcer à la française cette fois, ce sera un peu mieux pour vos oreilles. Il sort un peu de nulle part. Comment vous faites pour l'oublier comme ça, tout seul, dans les 6 mètres? Comment vous faites pour lui laisser le temps de se retourner? Ça rappelle d'ailleurs un petit peu le premier but encaissé face à l'Ajax, avec Promesse, qui s'était un peu retrouvé dans la même zone, tout seul, à peu près au même moment de la rencontre. Alors oui, donc il a manqué ce réalisme défensif. Il y a eu également des occasions qu'il aurait fallu convertir, notamment en fin de partie avec ces cadeaux offerts par la défense, par l'arrière-garde des Blues, par Kepa ou par les défenseurs et Osimhen j'ai perdu le nom du deuxième joueur qui aurait pu profiter, Soumaré, ces cadeaux dont aurait pu profiter, voilà, Soumaré et Osimhen. Maintenant, je trouve quand même que dans dans le contenu, les Lillois ont été un petit peu moins emballants que face à l'Ajax. Je les ai même trouvés peut-être un petit peu calculateurs en début de match. Je trouvais que le bloc était très bas. Et puis, je pense que la deuxième partie de la deuxième période, c'est-à-dire vraiment le dernier tiers de la rencontre, de leur part, n'a pas été très bon. Je pense que Chelsea a tout simplement été la meilleure équipe de ce match, en tout cas la plus régulière. Il y a eu des temps forts, Lillois, fin de première période, début de seconde période, mais globalement, j'ai trouvé cette équipe lilloise moins emballante et peu constante dans sa performance ce soir.
Oui, et c'est pas une très bonne opération du coup pour cette équipe de Lille, qui perd deux matchs déjà dans ce groupe avec Chelsea et l'Ajax qui, elle, accumule les victoires, hein, Hugo.
Ah oui, complètement. C'est même la pire opération possible. Ça aurait donné quand même un autre allant de gagner à
zéro
domicile. Zéro point. Alors maintenant, je pense que les discours, ça va plutôt être à l'optimisme. On va plutôt parler d'une chance encore à jouer face à Valence lors de la prochaine journée. Maintenant, clairement, c'est difficile pour Lille, et en même temps c'est plutôt logique. On a dit que ce Chelsea s'était affaibli, s'était rajeuni pour diverses raisons, mais Chelsea reste quand même un grand d'Europe. Willian, il y a des petits jeunes comme Abraham, il y a aussi des joueurs expérimentés comme Willian qui ont connu les heures de gloire récentes, notamment sous José Mourinho, qui ont connu la période Conte et évidemment la victoire en Ligue Europa. Donc il y avait plus de talent et assez logiquement le favori était Chelsea, assez logiquement le favori à remporter la rencontre.
Merci beaucoup Hugo pour ces compléments de commentaires que vous avez fait tout au long de la soirée sur l'antenne du RFI. Merci beaucoup, on vous laisse aller aussi à la rencontre des joueurs et nous, bien, on va continuer ici dans notre studio de Radio Foot que vous connaissez si bien. À bientôt Hugo, merci.
À bientôt.
On va écouter tout de suite, messieurs, avant que nous aussi on rentre dans l'analyse de ce match, on va écouter le capitaine de cette équipe lilloise, le dog José Fonte, évoquer effectivement la prestation des siens ce soir.
Mais qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Il faut apprendre avec les erreurs, comme j'ai dit. Il y a pas beaucoup de choses à dire. On a la qualité pour se battre contre cette chaîne d'équipe, mais c'est le petit détail, c'est la concentration, c'est la... être tueur, et c'est tout cet haut niveau chose qu'on va améliorer.
Dépité, hein, le José Fonte au micro de nos confrères de RMC. Gilles, c'est la déception ou aussi c'est peut-être de se rendre compte quand il dit on apprend des erreurs, oui, mais malheureusement, il le sent aussi que ce groupe, il est peut-être moins bon que l'an dernier.
Je suis absolument d'accord avec vous, ce groupe, il est moins bon. Je trouve qu'il brade sa qualification européenne, acquise chèrement. Le mot d'ordre pour moi de Lille, c'était pas gagner-gagner, c'est perdre-perdre en Ligue des Champions. Il faudra prendre 6 points face à Valence pour espérer. Mais franchement, il y a eu trop de changements. On avait l'impression d'une équipe qui se cherchait, qui se découvrait. Il n'y a pas d'automatisme.
Il y a de l'espoir parce que, par exemple, on voit ce Osimhen. C'est vrai que le buteur nigérian qu'on voit éclore comme ça. Mais on comprend aussi pourquoi il a des gestes d'imprécision à l'âge qu'il a.
Il est très bon, mais il y avait Pépé, il est parti. À chaque fois, il est bon et lui, il partira. C'est ce système-là, moi, que je n'aime pas. Vous avez des bons joueurs, ils arrivent et dès qu'ils sont bons, vous les vendez et vous reconstruisez. Donc, vous obtenez une qualification. Mais quand vous disputer la Ligue des Champions, on dirait une équipe expérimentale. Donc c'est ce qui était arrivé à Monaco une fois. Moi je suis très déçu par ça, parce que vous ne mettez pas sur un piédestal cette Ligue des Champions. Alors oui, il y a des erreurs individuelles, il y a peut-être une faute sur le but vainqueur de Chelsea, c'est vrai. Mais ça n'excuse pas la faillite lilloise.
On va écouter tout de suite l'entraîneur justement de cette équipe, Christophe Galtier. Dans la première partie de Radio Foot International, pour ceux qui l'ont suivi, on avait Bruno Salomon qui disait oui, c'est une équipe jeune et débutante, mais aussi Christophe Galtier découvre finalement la Ligue des Champions. Tout le monde est débutant. Écoutons son analyse à lui, l'entraîneur de cette équipe.
On tombait sur un adversaire qui nous a battu sur un plan athlétique, dans l'intensité, avec l'habitude évidemment des matchs très difficiles. Difficile du championnat anglais et on a souffert dans ce domaine-là. En première période, nous avons mis du temps à avancer sur l'adversaire. Dès que nous avions pu avancer sur l'adversaire, on a essayé de les mettre sous pression et on s'est créé quelques situations. Mais voilà, c'est dommage. C'était un retour en Champions League à Lille. C'est manqué, mais on joue sur des adversaires qui ont beaucoup d'expérience et on est vite sanctionné sur nos temps faibles.
Eh oui, c'est dommage, nous dit donc Christophe Galtier au micro de RMC qui retransmet. Mettez ce match en France. Effectivement, il y avait une immense banderole dans le stade Pierre Mauroy. Lille is back. Lille is back. Et malheureusement, les dogs tout de suite calmés.
Ils se sont fait mal en plus parce qu'on apprend après le match que Ikoné s'est fait mal au genou. Il y aura des analyses demain. Que Renato Sanchez, qui est entré en fin de match, et on va en dire un mot parce que Gilles a raison sur la fragilité de Lille. Et on va en dire un mot de Renato Sanchez. J'insiste sur ce joueur parce que c'est compliqué de faire ce genre de choix quand on recrute. C'est un coup tenté, un pari éventuellement. En l'occurrence, je demande à voir. Lille s'est fait mal. Je suis assez d'accord avec Gilles parce que le dauphin du championnat de France qui vient comme ça en Coupe d'Europe. Alors oui, on peut parler d'inexpérience, bien sûr. Il y a beaucoup d'équipes qui peuvent utiliser cette excuse.
Mais c'est presque voulu.
Et en plus, on se faisait la remarque pendant le match que Chelsea, c'est quand même pas une équipe qui. Alors qu'elle fasse peur sur des souvenirs des 10-15 dernières années, je veux bien, mais qu'elle fasse peur sur son niveau actuel et début de saison en Angleterre, non. Lille doit pouvoir s'affirmer et Lille se donne pas les moyens de le faire en ce moment.
Gilles,
le groupe, il est accessible en plus. Oui. C'est vraiment un groupe où. Qui est ouvert.
Valence a déjà perdu deux matchs. Hein.
Absolument. À part l'Ajax.
Ah non, c'est Chelsea, pardon. Valence et Chelsea ont chacun perdu un match.
Maintenant, 3 points chacun. L'Ajax à 6, Lille 0. Donc en fait, c'est un groupe ouvert derrière l'Ajax, qui semble retrouver sa superbe. Il y avait une place à prendre et puis Lille ne la prendra pas. Peut-être même qu'ils seront quatrième. C'est ça qui est décevant. Alors, il y a des bons joueurs, mais je trouve que ça manque de liant. Entre le milieu et l'attaque, je trouve qu'il y a des transmissions qui sont trop aléatoires. Je trouve que cette équipe, manque de complémentarité. Peut-être que ça peut fonctionner en Ligue 1, de nouveau, on verra. À l'échelon européen, pour moi, c'est beaucoup trop court.
Parlez-nous alors de cette recrue, effectivement, parce que c'est
un pari, c'est une équipe
qui parie sur certains joueurs. Des fois, ça se révèle bon et des fois mauvais. Et là, ils avaient appelé ce Renato Sanchez. On s'en souvient, on l'a déjà vu en équipe nationale du Portugal à l'Euro 2016 notamment, mais c'est un joueur qui a du mal à confirmer et même là.
C'est exactement ça. Et quand on discute avec des gens qui l'avaient suivi lorsqu'il était jeune, on s'aperçoit qu'ils ont gardé à l'esprit ce doute tenace en les capacités de Renato Sanchez de franchir ce cap mental qui lui permette de réaliser plusieurs bonnes performances d'affilée. Il faudrait déjà qu'il en réalise une. Pour cela, il faut que l'entraîneur lui fasse confiance. Au Bayern, ça n'a jamais été le cas, ni son entraîneur, ni ses dirigeants. Le Bayern, parfois, ne fait pas confiance à certains joueurs. C'était le cas avec ce jeune international. À Lille, il a peut-être la chance de jouer davantage. Il a énormément de qualités, on les connaît sur le plan du ballon, sur le plan de la récupération, sur le plan de la transmission entre la défense et l'attaque. Mais Renato Sanchez, son mental n'est pas un mental de champion, c'est persistant, ce doute-là, il est tenace, et je crains que ça ne l'emporte vers le bas.
À son poste, normalement, et il le faisait à l'Euro 2016, vous mettez de l'intensité. Oui. C'est-à-dire qu'il traversait presque box to box, il avait un rayonnement sur le terrain considérable.
Vitesse.
Voilà. Là, il a perdu ça. Et je trouve que c'est exactement à l'image de Lille. C'est-à-dire que dans cette équipe, il n'y a pas d'intensité. Ils ont subi physiquement, ils ont subi mentalement. À chaque fois qu'ils sont bousculés, on a l'impression qu'ils ne se révoltent
pas. Pourtant, ils reviennent au score quand même. C'est Chelsea qui ouvre le score donc avec Abraham. Et c'est ensuite, une dizaine de minutes après,
exactement.
Ils arrivent, ils reviennent quand même.
Par Osimhen. Et lui, il incarne cette intensité.
Oui.
Il pallie le manque, je trouve, de hargne, d'état d'esprit des autres. C'est ça qui me choque. C'est qu'on avait l'impression d'une sorte de
fatalisme. Ça aussi.
Fatalisme. On accepte la défaite. Et pour moi, Lille n'a pas tout entrepris pour gagner ce soir.
Alors, Chelsea, en fin de match, à la 78e minute, va finir par marquer ce deuxième but des pieds du Brésilien Willian. Écoutons, un des bons éléments et non pas jeunes de cette équipe de Chelsea, mais l'expérimenté N'Golo Kanté, l'international champion du monde, le français. Écoutons-le parce que rapidement, il exprime ce qu'il faut à la sortie d'un tel match.
Franchement, Lille, ils ont réalisé un bon match, ils nous ont mis pas mal de fois en difficulté. On voulait gagner, on a réussi à gagner, donc on va se satisfaire de la victoire.
L'élégance de N'Golo Kanté, mais effectivement, qui dit ce qu'il faut.
Exactement. Et moi, ce que j'aime bien chez lui, vous voyez, il était incertain, blessé un peu. On ne savait pas s'il jouait. Et lui, il met de l'intensité. Alors, ce n'est pas encore le grand Kanté parce qu'il revient juste
de
blessure. Ça prouve d'ailleurs à quel point il est fondamental à Chelsea. Un joueur qui revient de blessure, on l'aligne en Ligue des Champions. Bon. Mais je trouve que...
Mais contre Lille.
Mais contre Lille, voilà. Il a, lui, tout ce que Lille n'a pas. C'est-à-dire cette volonté de faire souffrir l'adversaire.
Et un peu ce que Lyon a montré ce soir, sans vouloir revenir en arrière dans l'émission.
Non, bien sûr. Bien sûr,
c'est indispensable dans ces matchs-là.
Oui, les deux clubs français, effectivement, avec des fortunes diverses. On a cru à un moment qu'au moins ils arracheraient le match nul, et puis ça n'a pas tenu. Et malheureusement, eh bien, au classement, c'est assez sévère. Allez, passons à un troisième match qui nous intéressait ce soir et qui intéressait sûrement aussi beaucoup de nos auditeurs. Il se déroulait en Catalogne. Le pistolero à l'œuvre, le pistolero uruguayen du Barcelone, la rage, hein, on l'a vu, de Luis Suarez, son réalisme aussi. Christophe Galtier avait parlé de, il faut du réalisme chirurgical, nous avait-il dit avant le match. Eh bien, c'était évidemment dans les pieds de ce grand buteur du côté du Barça. Le Barça qui s'est donc imposé face à l'Inter Milan. Mais ce qu'on peut dire peut-être, au vu de ce qu'on a entreaperçu lors de la première mi-temps, puisqu'on a plusieurs yeux et plusieurs écrans, à Radio Foot, c'était une victoire un peu inespérée, Gilles, parce que c'était très mal parti à l'issue des premières minutes.
Une bouillie en première mi-temps. Rien.
C'est l'Inter qui ouvre le score et qui mène 1 à 0 pendant très longtemps.
Leçon de réalisme de cet Inter qui est très fort sur la scène italienne, qui s'exporte bien. Et puis à la mi-temps, quand même, une réaction d'un entraîneur que moi je voyais en perdition à la mi-temps. Il avait l'air de ne plus savoir où il était. Il change son 4-3-3 en 4-2-3-1. Et à ce moment-là, on retrouve des fulgurances. On retrouve un équilibre d'équipe quand même. Et puis les éclairs des deux génies, quoi. C'est-à-dire que le but, premier but de Suarez, cette reprise de volée, elle est magnifique. Et le deuxième but, c'est un rush de Messi qui jusque-là avait l'air parfois un peu perdu ou agacé. Provoquait des fautes, mais il n'était pas décisif. Il fait une superbe passe, contrôle de Suarez et but enchaîné. Ils ont fait basculer le match. Ils sortent le Barça de la crise. Ils sortent Valverde d'une situation inconfortable. Donc voilà, toute la Catalogne remercie son duo de génie.
David.
Formidable bras de fer, en tout cas. L'Inter qui marque le but.
Oui, parce que c'était Antonio Conte en face. Hein. C'était pas n'importe qui, on va dire.
L'Inter qui marque le but le plus rapide dans cette compétition pour lui depuis 2011. C'était Stankovic à l'époque. Et le Barça, à l'inverse, cette ouverture du score de l'Inter, c'est le but encaissé par le Barça depuis 2011. Ils n'avaient pas encaissé de but aussi rapide. C'était un certain Alexandre Pato. Ça ne nous rajeunit pas.
Oui.
Mais peut-être que l'Inter aussi s'est un peu étouffé en deuxième période. Lui-même, ou peut-être parce que le Barça a su aussi retrouver sa façon de jouer, mais on a senti un Inter qui allait avoir du mal quand même à tenir sur la deuxième mi-temps. Au fil des minutes, un Barça de plus en plus fluide,
incisif
dans ses actions, incisif. Et puis alors c'est vrai, ce but de Luis Suarez, ce coup de pétard, il se couche, sa reprise de volée est magnifique, pour moi c'est le but du soir, même si le deuxième est très joli aussi. Hein.
Alors peut-être que cette mi-temps est la meilleure du Barça depuis le début de la saison, cette deuxième mi-temps. J'ai trouvé qu'il y avait une sorte de renaissance dans l'état d'esprit. Il y a les parades de gardien Ter Stegen, c'est sûr, mais il y avait aussi une nouvelle soif de conquête. Alors, je dirais pas de reconquête, faut attendre un peu, mais je trouve qu'il y avait plus de fluidité, plus d'état d'esprit. Alors la grande question qui se pose pour nous Français, c'est que
je
vous laisse, Annie, vous le ferez bien
David
mieux que moi.
David Finzel, sinon ne supporterait pas, je ne la pose pas, mais c'est effectivement la sortie d'Antoine Griezmann à peu près la 65e minute, hein, c'est-à-dire
66e,
avant le deuxième but. La sortie d'Antoine Griezmann, qui lui-même par deux fois a en tout cas tenté de marquer des buts, on se souvient d'une tête notamment. Cette sortie d'Antoine Griezmann est remplacée par Dembélé, c'est-à-dire remplacée par un autre attaquant. Est-ce que il faut mal l'interpréter ou est-ce qu'elle est logique dans ce qui se passe sur le terrain?
Écoutez, il faut être honnête, ça fait désordre pour lui quand même, parce que juste avant, en plus, il fait un rush, il y a Messi qui fait un appel, il lui donne pas le ballon, on voit la tête de Messi dépité, quelques minutes après, il sort. C'est une mauvaise soirée pour lui, parce qu'en plus, il sort au milieu de cette deuxième mi-temps, au moment où Barça, effectivement, je suis d'accord avec David, commence à faire croître ces vagues incessantes vers le but de l'Inter. Donc Griezmann, il n'a pas connu cette fin de match-là. C'est compliqué. Voilà, la complémentarité avec Messi et Suarez, objectivement, elle est nulle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'échange, il n'y a rien entre eux.
Vous aviez le nombre de passes entre eux, c'est...
Oui, c'est
deux,
famélique.
Deux et trois, respectivement, dans un sens et dans l'autre, entre Messi et Griezmann, c'est-à-dire rien.
Alors, ils ne se trouvent pas, mais le pire, c'est qu'ils ne se cherchent pas non plus. Donc, pour Griezmann, c'est une mauvaise soirée.
David.
Oui, on a l'impression, l'action qu'évoque Gilles, où Messi attend le ballon en tendant les bras aux 6 mètres, et Griezmann frappe finalement du gauche dans un angle fermé, trouve le petit filet. Cette action, pour moi, elle symbolise le fait que la greffe n'a pas pris. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a des filières de jeu, qu'il y a une chaîne avec des maillons qui sont accrochés les uns aux autres, et Griezmann est en plus de ça. Ça n'enlève rien de ses qualités individuelles, bien.
Mais on
entendu.
Dit qu'il a besoin de temps.
Pour s'intégrer, alors. Mais ça ne va pas dépendre s'adapter. Que du temps, ça va dépendre des gens autour partenaires. De lui aussi, peut-être.
Il a besoin de quelques ballons aussi, hein. De temps, mais de ballons. Et moi, j'en reviens à ce que je disais l'autre jour chez vous, c'est que, pour moi, ses coéquipiers ne lui ont pas encore tout à fait pardonné le fait d'être, entre guillemets, selon eux, une des causes de la non-venue de Neymar, puisque l'argent a été investi sur lui. Et j'ai l'impression quand même qu'on ne le met pas dans les meilleures dispositions. Et Barcelone, c'est compliqué. Barcelone, c'est phénoménal, c'est une école de football magnifique, mais il y a parfois des greffes qui ne prennent pas à Barcelone.
Donc, et même de grands joueurs.
Eh oui, et Coutinho. Regardez ce qu'il fait
Du Bayern. Côté du Bayern, n'est-ce
et
pas
voilà.
On l'a vu
donc,
à l'heure.
J'espère que Griezmann, eh bien, ce ne sera pas un nouveau Coutinho. Je l'espère vraiment.
En tout cas, le Barça quand même a souffert ce soir. Alors beaucoup moins que le Real hier, puisque le Barça s'est imposé et gagne son match et gagne les 3 points. Alors que hier, le Real n'a pu arracher que le nul 2-2. Les deux donc dans la souffrance quand même. Et dans un moment, on sent bien qu'il y a quand même des incertitudes, des doutes par moment. Mais David Lortolari, vous qui êtes l'auteur d'un livre que j'ai en main et dont vous avez déjà parlé dans Radio Foot International, À quoi jouent les gardiens vous nous répondez en 100 questions, et il y a même une préface de Pascal Olmeta. Mais moi, j'aimerais vous poser une question sur Thibaut Courtois, parce que c'est quelque chose hier qui a été extrêmement surprenant et qui fait évidemment beaucoup parler depuis hier. Thibaut Courtois sorti à la mi-temps. Est-ce que vous, dans votre livre, là, vous l'évoquez, ce genre de possibilité?
En fait, on se ramène au fait que le gardien est un surhomme sur le plan mental. Et on avait eu l'occasion de parler avec Joseph Antoine Bell lorsqu'il était venu à l'émission où on avait évoqué ça. Enfin, surhomme, le mot est trop fort, mais il y a
un
besoin
rôle
de...
tellement à part, en fait.
Oui, il y a besoin de qualité mentale vraiment supérieure. C'est vrai aussi pour l'avant-centre, on l'avait dit.
Et il a besoin de confiance.
Mais alors, c'est pour ça que je suis toujours un peu... interloqué et un peu interdit lorsque un
mais
entraîneur...
Mais ça se fait ou ça se fait pas de
ça se fait pas, non.
Voilà.
Ça se fait pas. Sur une saison, vous allez vous souvenir de... Allez, si vous voyez, je sais pas moi, 250 matchs, vous allez vous souvenir de une à deux fois où le gardien est sorti avant la fin du match. La première... Enfin, il y a trois cas. Il peut y avoir une blessure, il peut y avoir un gardien qui est remplacé à la 120e minute pour que son homologue réussisse des arrêts de tir au but, ce qui sont des cas complètement improbables. Et le troisième cas qui est très rare et qui fait forcément du bruit, c'est lorsque l'entraîneur... Et on comprend par ailleurs la logique de Zidane s'il décide que son joueur n'est pas à la hauteur du reste de l'équipe et il veut changer de son fusil d'épaule. On comprend, mais c'est...
Est-ce qu'on peut imaginer que c'est Thibaut Courtois qui lui a dit à Zidane « je peux pas y retourner »
J'ai du mal.
Sauf s'il est vraiment malade.
Ah oui, bien sûr.
Sauf s'il est vraiment... Non, mais sauf si, je ne dis pas qu'il l'était, mais si jamais il ne se sent pas bien, s'il a joué déjà limite... Par exemple, quand vous jouez dans un état grippal, vous vous sentez que vous ne pourrez pas tenir.
Est-ce qu'au Real, en Ligue des Champions, alors qu'on doit gagner en plus ce soir-là, est-ce qu'on peut se permettre d'aller jouer limite?
La seule chose... qui me fait aller dans mon sens, je dirais que c'est la moindre des choses, mais pas d'une manière inconsidérée.
On vous écoute.
C'est que si jamais c'est une sanction, c'est-à-dire s'il le sort parce que son gardien est mauvais, que psychologiquement il ne supporte pas, c'est fichu. Il ne se remettra pas. C'est-à-dire que l'entraîneur aurait mentalement fusillé son gardien de but. Zidane aurait... Vous voyez ce que je veux dire? Il ne peut pas s'en remettre s'il n'est pas malade. Si c'est une sanction pour un gardien, comme disait David, c'est du jamais vu. Et je ne pense pas que Zidane aurait fait ça à Courtois. Donc je pense qu'il y avait quand même une raison médicale ou physiologique. D'autant...
Mais la raison, il venait d'encaisser deux buts. Il en avait encaissé cinq en deux matchs de Ligue des Champions. Le seul clean sheet qu'il y a eu pour l'instant, c'est-à-dire ne pas encaisser de but sur un match en Liga, c'était pas lui qui était dans les buts, c'était Areola. C'est peut-être tout ça qui, à un moment, a fait voir aussi le vide à Zidane.
Il a ouvert les yeux comme ça à la mi-temps. Mais c'est vrai que... Adi, oui. Votre argumentaire très précis me fait dire que le mien était fragile. Non, mais j'entends parfaitement. On n'est pas malade trois matchs de suite. Donc oui, il y a peut-être un problème psychologique courtois, mais je pense que Zidane connaît assez le foot pour ne pas prendre le risque de briser presque mentalement un homme comme Courtois.
Qu'il ne voulait pas vraiment. Hein. Souvenons-nous aussi, il aurait préféré Navas, il s'en est séparé.
Je savais que mon argumentaire était trop ténu pour vous, Annie. J'aurais pas dû me lancer là-dedans.
Je me fais l'avocate du diable, véritablement. David.
Juste, ce qui fait toute la différence entre les tout meilleurs, ils sont pas nombreux, et les autres, c'est la capacité à oublier dans les 10 secondes qui suivent un but encaissé, l'action qui vient de se produire pour retrouver son meilleur niveau tout de suite. Les tout meilleurs gardiens, les tout meilleurs, je dis bien, c'est ça. Donc ça, on doit pouvoir, quand on est entraîneur, faire confiance à son joueur. Et si on ne le fait pas, on va laisser passer le match, on va, devant la presse, réaffirmer sa confiance au gardien, quitte à le remplacer au match suivant. C'est pour ça que je suis surpris. Et que ce que suggère Gilles, qui pourrait être une hypothèse, serait la raison la plus solide pour qu'il soit sorti à la mi-temps. Parce que sinon, il en a pour 3 mois, 6 mois, voire une saison, voire plusieurs à s'en remettre.
Bon, en tout cas, Areola, hein, Alphonse Areola, le Français, a tenu son rang dans ses buts. Et au moins, Zidane peut se dire qu'il a un numéro 2.
Radio Foot International, Annie Gasnier.
Pour terminer cette émission, restons dans le football européen, mais dans une autre catégorie, celle de la Ligue Europa, l'autre Coupe d'Europe, comme on l'appelle aussi. Deux clubs français sont concernés par cette compétition, Saint-Étienne et Rennes, qui joueront donc à leur tour et le jeudi soir. Les Verts, en pleine crise, eux, plutôt d'encadrement que de confiance. On sait qu'il y a des tractations et que, sans doute, Ghislain Printemps ne passerait pas l'hiver ni l'automne, mais
ni la semaine
sans doute. Je voulais pas le faire, mais bon, c'est venu tout seul. En tout cas, Saint-Étienne, donc, qui ne sait pas trop de quoi sera fait l'avenir, mais en tout cas, eh bien, ils ont gagné en championnat l'autre jour et on a vu quand même cette communion entre, là aussi, hein, l'entraîneur, entre Ghislain Printemps et ses joueurs. Eh bien, on va l'écouter, Ghislain Printemps, parce que là, ils reçoivent le club allemand de Wolfsburg demain et Ghislain Printemps aimerait faire plaisir aux spectateurs.
Il y a quand même une obligation de résultat et ça serait bien de gagner devant nos supporters. On va mettre tout en œuvre pour réussir cette mission. On ne rend pas jusqu'à présent, le public a été exemplaire et on n'a pas réussi à lui offrir cette joie de gagner. Donc, j'ose espérer que dès demain, on pourra communier avec eux à travers une victoire.
Alors, David Lortolari, cette équipe des Verts qui a perdu son premier match à la Gantoise sur le score de 3-2, c'était en Belgique, hein, aimerait un sursaut pour le peuple vert, peut-être pour toute l'équipe, pour rebondir.
Ça va être aussi difficile que la tâche était difficile pour Lyon ce soir. Parce que
Donc pas impossible.
Compliqué, parce que Wolfsburg est en pleine confiance, a gagné le match, premier match contre un club ukrainien, comment je vais le qualifier ? Peu expérimenté sur la scène européenne, Alexandria.
Attendez à tout.
Non, mais Wolfsburg est en confiance, a réussi son début de saison en championnat et a réussi une intégration express de son nouvel entraîneur, son jeune entraîneur, Oliver Glasner. Et du coup, pour les Verts, il va falloir non seulement être bon soi-même, mais aussi surmonter le surcroît de confiance de l'adversaire. Donc
c'est quand même amusant que ces deux équipes qui vont se disputer un derby si chaud en fin de semaine, toutes les deux se retrouvent avec des clubs allemands. Mais là, oui. Ils sont quand même à domicile. On le connaît, le chaudron de Saint-Étienne.
Oui, c'est bien sûr, c'est un argument que Wolfsburg n'a pas quand il est à domicile lui-même, parce que c'est un plastique club, comme on dit en Allemagne, un club artificiel. Mais ça va être une mission difficile pour les Verts. Ça pourrait être aussi, on va pas faire d'hypothèse de fiction, mais une victoire des Verts ou un bon match des Verts serait un bon signal par rapport à ce qui s'est passé et la victoire récente en championnat serait un bon signal.
Mmh. Gilles, sur ces Verts.
Il faut s'inspirer de la jurisprudence Silvigno, mal en point, blackboulé, chahuté, peut-être menacé. et puis match de la rédemption, il gagne. Alors pour Printemps, ce sera plus difficile parce que sa situation est sans doute déjà réglée. Alors ça, c'est le problème. Et deuxièmement, très franchement, pour Saint-Etienne, le vrai gros match de la semaine, vu la situation en championnat, c'est pas celui-là pour moi.
Ah, ils sont avant-dernier.
C'est le match de Ligue 1. En plus, un derby. Donc voilà, c'est le match essentiel. Mais là, il faut quand même retrouver, je dirais, une certaine assise face à un public qui peut être frondeur si ça se passe mal. Donc c'est un peu le match de tous les dangers quand même. Ça peut se terminer en une belle histoire avec un beau succès, un Printemps qui ou sortirait par la grande porte ou serait conforté. Je suis un peu dubitatif.
Et en face, il y a Joshua Guelavogui, qui est capitaine à Wolfsburg, qui a pris ses marques là-bas,
ancien de Saint-Etienne.
Voilà, tout à fait.
Qui va retrouver ses camarades, mais il sera dans le camp d'en face. L'autre équipe, eh bien, c'est le club breton, qui avait fait une si belle épopée l'année dernière. On s'en souvient de ce stade rennais en Ligue Europa. Cette fois, la confrontation est très sérieuse, puisque ce sera à Rome, dans le Stadio Olimpico, et ce sera face à la Lazio. Écoute, l'attaquant du Sénégalais, l'international sénégalais, Mbaye Niang, oui, je confonds vraiment au mauvais moment. Mbaye Niang, le Sénégalais, évoquait cette rencontre qui aura lieu donc demain soir.
La Lazio, c'est une équipe qui respecte beaucoup ses adversaires. Maintenant, ça sera à nous de mettre en place ce qu'on a toujours mis en place face aux grandes équipes, c'est-à-dire de faire ce qu'on sait faire, de jouer avec nos qualités. Et sur ça, on a prouvé sur les grands matchs qu'on savait répondre présent. Maintenant, il faudra continuer à le faire aussi demain. Après, au niveau du contexte, comme le coach l'a dit, c'est toujours mieux de jouer dans un stade plein, mais il faudra qu'on se concentre et d'être plus attentif parce que c'est souvent mieux de jouer dans les stades pleins. Maintenant, quand il est moins plein, il faut savoir réchauffer le peu de personnes qui ira au stade.
Réchauffer le peu de personnes qui ira au stade, non, quand même, un rendez-vous européen. Le club rennais, il a son public fidèle.
Ben, Lazio Rennes, c'est pas essentiel.
On en a trouvé en Chine qui suivait le Rennes jusqu'au bout du monde.
Oui, mais la particularité de ce match, franchement, c'est que pour les deux équipes, je dirais que il y a objectif plus important qui est sur le front domestique. Et je voudrais bien savoir s'il va pas y avoir du turnover à Rennes. Est-ce que Mbaye Niang va jouer? Est-ce qu'il va pas être ménagé? Il est sur tous les fronts, il est brillant, il marque. Mais à un moment, il faudra le reposer. Et le problème de Rennes, c'est que vous n'avez pas un effectif pour moi pléthorique. Et que
c'est sûrement leur plus gros...
Plus
grosse difficulté.
Exactement.
Cette saison.
Et si vous faites reposer des titulaires, le niveau chute considérablement. Mais à un moment, Mbaye Niang, il pourra pas sauver Rennes à tous les matchs. Alors, ils sont sur une série hésitante. Des matchs nuls. Ils étaient très bien partis. La dynamique semble un peu...
Ils avaient fait match nul chez eux contre le Celtic récemment.
Oui, ils font beaucoup de matchs nuls avec effectivement, comme disait Mbaye Niang, qui est très lucide, des fautes d'inattention, des approximations. Pour moi, voilà, l'avenir de Rennes se joue pas face à la Lazio.
C'est dommage parce qu'il y avait, et d'ailleurs vous évoquez la fidélité du public, Annie, il y avait quand même un semblant de quelque chose qui était en train de se créer avec Rennes par rapport à la saison dernière. Et c'est dommage, mais je suis parfaitement d'accord avec Gilles. C'est compliqué là pour jouer les deux tableaux.
Même si l'équipe n'est pas défigurée là, en l'occurrence par rapport à l'année dernière, il y a beaucoup de bons éléments qui sont restés.
Absolument, mais on en reste à cette Ligue Europa. Souvent on dit, mais pourquoi y aller si c'est pour ne pas la considérer de manière majeure? Mais il y a des clubs qui le font, mais pas tous, parce que vous jouez le jeudi, vous pouvez pas récupérer pour le week-end. C'est pas facile pour nos effectifs qui sont souvent pas doublés. Et pour des clubs comme Saint-Etienne et Rennes là, c'est une compétition qui est délicate à aborder. Il faut le reconnaître.
Non, puis on se souvient même de Marseille, l'OM quand même, grande équipe française. On se souvient de la belle aventure et puis l'année d'après qui a été extrêmement difficile à digérer. C'est la fin de ce Radio Foot International deuxième édition après les matchs de Ligue des Champions. Merci beaucoup messieurs d'avoir participé avec moi à cette émission. Merci aussi à David Finzel qui fidèlement était là pour aider à élaborer cette émission. Laurent Salerno était là aussi au rendez-vous et nous serons là demain pour revenir sur toutes ces journées.